RCF. Nos frères aînés, Noémie Marijon.
Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour la communauté juive. Nous sommes le 10 du mois de Tichri. C'est le jour de Yom Kippour, que l'on peut traduire par le jour du grand pardon. Ce jour fait suite aux 10 jours redoutables, des jours de pénitence et de repentir. Avec Michel Baird, bibliothécaire, nous allons partir à la découverte du Shabbat des Shabbats et de ses échos dans le christianisme. Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté juive? Pourquoi c'est un jour important et solennel?
Alors, c'est un jour important et solennel parce que les Juifs ne sont pas très portés sur la recherche de pardon, mais c'est un jour où on va prier pour obtenir de Dieu le pardon des péchés qu'on a commis. Yom Kippour est la conclusion, quelque part, de ces 10 jours terribles dont tu parlais, qui commencent au lendemain de Rosh Hashanah, du Nouvel An.
Rosh Hashanah, oui, c'est le Nouvel An, c'était donc il y a 10 jours.
Nouvel An, par une cérémonie qui s'appelle Tashlir, qui veut dire en hébreu « envoi », dans laquelle les Juifs les plus pratiquants vont aller au bord d'une rivière ou d'une eau vive, enfin de toute façon une eau vive, ou le mieux du mieux, le bord de la mer, pour envoyer dans les profondeurs les péchés qu'ils ont pu commettre.
Et symboliquement, ça se traduit comment?
Par des prières et par un geste d'envoi, de rejet. Donc, une fois ces 10 jours entamés, les Juifs qui se sentent en faute vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, qui aurait commis un péché ou nuit à quelqu'un, sont censés lui demander pardon. Donc, C'est-à-dire demander effectivement pardon à la personne à laquelle ils ont nui, de manière à pouvoir se présenter l'esprit clair pour le cérémonial de Kol Nidré, pour la cérémonie qui ouvre à la synagogue la fête de Yom Kippour.
Alors Kol Nidré,
Kol, c'est tout, Nidré, c'est les vœux, c'est tous les vœux que j'ai prononcés, tous les serments, toutes les fausses promesses que j'ai pu faire. Ça commence comme ça. C'est en fait, on demande à Dieu de les abolir, de les anéantir.
D'accord.
De les faire disparaître de leur vie. Et donc, c'est le début de Yom Kippour. Alors, Yom Kippour, ça frappe beaucoup les gens quand on leur dit que pendant 25 heures, puisqu'une fête juive commence 1 heure avant le coucher du soleil pour se terminer 1 heure après le coucher du soleil, pendant 25 heures, les gens ne vont ni manger ni boire. Et en fait, enfin, à l'exception des tout petits enfants.
Et des femmes enceintes.
Et des femmes enceintes, des malades. Cette cérémonie ouvre toute une cérémonie, toute une série de prières, de chants, dans lesquels s'intercalent les chants normaux et les prières normales du Shabbat.
Alors, du coup, tout ça, ça se réalise à la synagogue ou c'est un culte à la maison?
C'est à la synagogue. C'est un culte collectif. Il faut qu'il y ait un minyan, c'est-à-dire plus de 10 hommes adultes. Et dans les milieux ashkénazes, les hommes portent souvent leur suaire, leur linceul.
Ah.
Ils portent leur linceul en signe
de deuil
à venir, c'est-à-dire qu'en deuil de la vie passée qu'ils ont pu avoir quelque part. Et il y a toute une série de prières qui sont propres à Yom Kippour, comme à toutes les fêtes. À la fin de Yom Kippour, il y a une cérémonie de Havdala.
D'accord. Et qu'est-ce que c'est que les Havdala?
La Havdala, c'est la séparation du temps sacré avec le temps profane.
Et ça se traduit comment dans les gestes?
Alors, en général, par une prière, et puis parce que on allume une bougie qui est tressée, et on sème dessus des épices, des aromates, pour se rappeler le temps sacré pendant le temps profane.
Pour que l'odeur reste, c'est
pour
ça?
Pour l'odeur reste, au moins jusqu'au Shabbat suivant, où on aura la même cérémonie. Donc c'est un jeûne absolu qui, évidemment, est précédé par un repas et sera suivi par un repas. Alors, c'est un temps où tout est calme, parce que les gens sont en fait très recueillis, où ils sont à la synagogue, où ils sont chez eux, ils ne se promènent pas.
Finalement, Yom Kippour, c'est pas une fête très festive.
C'est pas festif. Pas du tout festif. Mais c'est en même temps plein de plénitude. On fait quelque chose qu'on doit faire et qu'on doit réaliser. Et chez les Hassidim, il y a une tradition qui est de dire, et je crois que c'est transplanté dans tout le judaïsme maintenant, que si on fait bien Yom Kippour, que si tout se passe bien, si on a bien dit tous les textes, si on a bien chanté, si on a bien fait notre demande de pardon avant, eh bien le livre des péchés sera blanc. les pages du péché seront effacées du livre de Dieu.
Quelque part, si on traduit ça en termes catholiques, il y a une absolution totale des péchés ?
Ça passe pas en absolution.
Bah oui.
Les péchés n'existent plus puisqu'on a demandé leur effacement et qu'on a fait ce qu'il faut pour que Dieu puisse effacer les péchés que les hommes ont commis envers lui.
D'accord.
Mais Dieu ne peut pas effacer les péchés que les hommes ont commis entre eux. Il faut que les hommes les effacent d'abord.
Et alors là, vous avez...
D'où la demande de pardon. Faites aux gens auxquels on a pu nuire.
Et si la demande de pardon n'est pas acceptée ?
On considère dans le Talmud qu'il faut le dire trois fois, demander trois fois pardon, et si on l'a bien fait, eh bien, on considère que c'est pardonné.
D'accord.
Et c'est le Talmud.
Et alors, Michel, il y a une expression qui concerne Yom Kippour et qui est tombée complètement dans le langage public. Moi, je ne savais même pas que ça avait un rapport avec Yom Kippour. C'est celle du bouc émissaire. Et Michel, qu'est-ce qui arrive à ce bouc ?
Pas grand-chose de bon, à mon avis. Donc ce bouc, alors il faut revenir à l'époque du Temple.
L'époque du Temple, en termes de bande chronologique.
Jusqu'en 70 de notre ère.
Donc, on est avant le premier siècle.
Avant le premier siècle, jusqu'en 70 de notre ère, Yom Kippour est le jour, d'où l'importance des 10 jours terribles d'ailleurs, où le grand prêtre entre dans le sanctuaire et prononce le nom divin.
Donc tout ça, ça se passe à Jérusalem. Hein.
Ça se passe à Jérusalem, et ça ne peut se passer qu'à Jérusalem. Et ensuite... Il a devant lui deux boucs, un qui sera sacrifié et un autre qu'on envoie chargé des péchés d'Israël, sacré. C'est ce fameux bouc émissaire qu'on envoie en araméen, le Azazel, qui est un lieu quelque part au milieu du désert. Alors soit il survit et il mène sa vie au désert, on n'en entend plus parler, soit il y a une panthère ou un lion du coin qui va le consommer et les péchés seront effacés de la même manière.
Donc oui, on est sur la même symbolique de l'effacement total des péchés.
Des péchés. Et il est porteur des péchés d'Israël.
D'accord.
D'où le côté bouc émissaire.
Vient de voir un petit peu avec vous, de mieux comprendre ce que c'est que Yom Kippour. Donc on a parlé de jeûne, de prière, de demande de pardon, qui sont des éléments qu'on retrouve dans le christianisme quand même. Est-ce que, ma question est peut-être un peu idiote, mais est-ce que le carême c'est une sorte de Yom Kippour qui aurait grossi jusqu'à faire 40 jours, même si le jeûne est moins intense ?
À vrai dire, en réfléchissant, je me demande encore s'il y a un lien entre les deux. J'ai le sentiment, que ça soit dans la liturgie catholique ou dans la liturgie protestante, qu'en fait, quand on fait une demande de pardon, c'est dans la relation avec Dieu. Mm-hmm. C'est moins dans la relation horizontale entre les hommes, comme si, en fait, c'était plutôt notre omission d'action, c'est les actions qu'on n'a pas commises, dont on demandait à Dieu pardon parce qu'il nous a donné des ordres et on n'a pas obéi. Enfin, je ne suis jamais arrivée à faire le rapport entre les deux. Je pense que Yom Kippour est quelque chose de tout à fait particulier qui correspond à une mystique et à une éthique propre au judaïsme, ce qui en fait d'ailleurs la grandeur, et que ça pourrait nous inspirer pour nous mettre dans un rapport peut-être différent entre les hommes, avec les hommes et les femmes, et avec Dieu.
Michel, dans la synagogue, vous nous avez parlé des chants, il y a un certain nombre de gestes. Est-ce qu'il y a des textes que nous aussi, on va lire dans la liturgie chrétienne ?
Alors, il y a, entre autres, le texte d'Ésaïe, le chapitre 54, les versets 14 à 58. Le texte de Moussaf, c'est-à-dire le rajout propre à la fête, rappelle toute l'histoire des rites de Yom Kippour.
Alors d'ailleurs, ces rites de Yom Kippour... J'ai cru comprendre que Yom Kippour, c'est une fête tellement importante qu'il y a un livre qui est consacré entièrement dans la Mishnah.
Alors, dans la Mishnah, il y a un livre, comme il y a un livre pour d'autres fêtes. Il y a un livre de Yom Kippour dans l'ordre des fêtes. Et il a son propre marzor, son propre recueil de textes liturgiques, différents des autres, dans la plupart des synagogues, dans beaucoup de synagogues. qui est différent des autres textes, des autres Shabbats, quoi. C'est vraiment une fête à part. C'est aussi psychologiquement une fête à part, dans la mesure où ne pas absorber d'aliments, quels qu'ils soient, pendant 25 heures, ça demande quand même une assaise personnelle, et ça met les gens dans un esprit particulier. Mm-hmm. C'est vraiment une préparation à la prière, à la réflexion personnelle.
Et donc ce jour de Yom Kippour, ce jour du grand pardon, est-ce qu'il y a un rapport avec le jugement dernier que nous, les chrétiens, on peut attendre?
Ça serait peut-être le plus proche de côté interprétation, parce que cet effacement des pardons du livre de la vie a un côté jugement dernier. Mais il se reproduit chaque année.
Et oui, je crois qu'il y a une histoire de Dieu qui quitte le trône de la justice pour aller vers celui de la miséricorde, non?
Ça se passe au jour de Rosh Hashanah, un jour de l'an.
D'accord.
Le soir du jour de l'an, Dieu quitte le trône de gloire pour aller sur le trône de miséricorde.
Donc on espère que pendant les 10 jours terribles, il soit
de sa miséricorde plus que sa gloire et son pouvoir.
Très bien.
C'est un vrai Dieu de miséricorde, Chesed Adonai.
Chesed Adonai. Dieu de miséricorde. Eh bien, merci Michel pour ce parcours avec vous dans la fête de Yom Kippour. Je voulais conclure en citant la rabbin Delphine Orvillère, pour qui la fête de Kippour est l'expression particulière de la question universelle du vivre ensemble. Elle dit qu'aucune société ne peut se décharger de ses responsabilités sur l'une de ses composantes, qu'aucun groupe humain ne peut espérer s'exonérer de ses fautes ou de ses errements en les attribuant à un autre groupe. Merci beaucoup Michel Bert pour ces différentes réflexions sur l'expérience du pardon et de la demande de pardon à la fois chez les juifs et chez les chrétiens. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Nos Frères Aînés. Restez à l'écoute de RCF. Bonne journée.